Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Ah oh non patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas Béro, volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek. Vous écoutez RMC.
Encore 20 minutes d'after ici en direct de Fougères avant la libre antenne qui prendra la suite jusqu'à 1h30 du matin. Manu Petit est là, Daniel Riolo est là et ils nous rejoignent. Johan Crochet, Paulo Breitner, salut les gars.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Bon, Pays-Bas-Autriche, les gars, heureusement que vous étiez là pour nous rattraper cette journée de football un peu pourri.
Tu veux pas faire marrer tout le monde avec la réaction de Southgate ?
Voilà, j'allais dire, avant que vous preniez la parole, Daniel, t'as la réaction de Southgate après le match de l'Angleterre.
Je sais pas si Paulo, Johan, vous avez eu l'occasion, un œil sur le match de l'Angleterre. Non ?
Oui, un œil, mais juste
mais un quart d'œil.
Voilà, mais le quart a suffi à voir que c'était lamentable. Ouais, voilà. Donc réaction de Gareth Southgate. Alors parce que Johan, tu rigolais un peu, un brin moqueur de Spalletti hier. Je pense que là on est à des années-lumière. Les supporters ont été exceptionnels en seconde mi-temps et ça nous a aidés. Les joueurs ont été incroyables. Ils ont gardé de la consistance dans le jeu, dans une atmosphère hostile. On a totalement contrôlé la seconde mi-temps. On s'est créé beaucoup d'occasions sans les concrétiser malheureusement. Je suis très content de ce que j'ai vu. Bon, bah écoute. Je sais pas, moi c'est, ça vous laisse sans voix.
Parallèle.
Non mais c'est incroyable comme réaction.
Alors, soit il prend les gens pour des cons, soit il est complètement à l'ouest.
Non, alors moi je parce que je cherche quand même à comprendre. Je cherche quand même à comprendre et je veux votre avis.
Southgate.
Moi je cherche quand même à comprendre quand on a des réactions comme ça et je vais vous soumettre une
la protection du groupe pour pas les afficher encore plus au niveau médiatique, je pense.
Alors Johan, je suis d'accord avec toi, je vais même un petit peu plus loin que ça. Je dis oui, évidemment, il y a la protection mais une protection qui est exagérée parce qu'on est dans une époque où on ne veut plus froisser les joueurs surtout s'ils ont des statuts de stars. On veut pas les emmerder d'ici que derrière il y a une story Insta qui tourne pas rond, tu vois. On est tellement dans le chouchoutage, dans la calinothérapie des capricieux qu'on ne veut surtout pas bousculer un joueur à notre époque. Et on arrive à ce genre de réaction complètement délirante. Je sais pas ce que vous pensez de ça. C'est la seule explication que je vois.
Mais c'est pour éviter aussi de devoir s'expliquer sur ces principes de jeu qu'il n'en a pas en fait.
Alors attention parce qu'ils ont fait un tour d'honneur les Anglais. Il a pris des gobelets par les supporters hein, qui ont balancé les trucs dessus.
Bah lui il dit qu'ils ont été exceptionnels. Paulo, est-ce que tu vois ce genre de phénomène également en Allemagne d'entraîneurs qui ne veulent plus mettre les joueurs face à leurs responsabilités parce qu'ils ont peur de perdre le groupe, un groupe de capricieux.
Ça existe parfois, tu vois. Nagelsmann par exemple, sa dernière rencontre, la conf de presse, elle est pas terrible quand même, quoi, parce que quand même la Suisse a dominé la rencontre. Ça se voit pas dans les statistiques. Ça, faut toujours faire très attention avec les statistiques. Mais c'était une mauvaise équipe d'Allemagne. Et quand t'écoutes quasiment en direct Nagelsmann, mon cher Gilbert, t'as l'impression que bon, ben, il est content, sa défense va bien, son milieu va bien, etc. Donc dans le cas présent, mais c'est toujours les 24 ou 48 heures après que c'est toujours plus intéressant en fait à voir les réactions des uns et des autres. C'est rarement sur l'instant présent parce que je suis pas sûr en fait que sur le banc tu vois vraiment ce qui se passe. Je pense qu'il faut revoir à la télé ce qui se passe. Je suis sûr qu'à la télé il y a des choses évidemment qu'on ne voit pas sur le terrain et à l'inverse sur le terrain on voit pas des choses qu'on verrait à la télé par exemple. Et donc c'est pour ça que je préfère toujours attendre un petit peu pour faire un bilan de quelque chose. Mais bon maintenant l'Angleterre je suis plus à la maternelle quoi. Donc ça m'intéresse pas. Mais non mais ça je laisse.
Tu vois pas le rapport entre la maternelle et l'intérêt, mais bon.
Non mais parce qu'on me force sur RMC à faire des débats sur cette fabuleuse équipe d'Angleterre. Moi parce qu'il y a des
là après ce qu'on a vu ce soir, il y a plus beaucoup de débats.
Ouais.
Hein.
Ouais. Mais bon. Pas...
Bon, bah justement, parlons de l'Autriche et du Pays-Bas, les gars.
L'Autriche est comme Polo nous l'a décrit depuis des mois. Voilà, on l'a vu.
Ah, c'est un match très important, je m'excuse de commencer. C'est un match très important au-delà de la conséquence et de la première place du groupe. Il faut se rappeler que l'Autriche n'a pas battu les Pays-Bas depuis 34 ans. J'ai vu tous les matchs depuis... il restait sur 7 défaites à la suite face aux Pays-Bas. Et je pense que Johan peut confirmer, il a vu quelques rencontres, je pense, et les Pays-Bas ont souvent mis des raclées à l'Autriche. Donc la rencontre de ce soir était... très symbolique, en fait, la victoire et la domination, notamment en première mi-temps, parce qu'il y a deux mi-temps qui sont très différentes. Le collectif autrichien par rapport aux Néerlandais, moi je continue à évidemment penser que l'individualité néerlandaise est supérieure à l'individualité autrichienne. Mais le pressing, le contre-pressing dès le début, le fait d'embêter très très souvent la défense néerlandaise ce soir, il n'y a pas de chapeau, hein, moi pour moi dans les défenseurs centraux des Pays-Bas, le fait de marquer très rapidement alors qu'on se fait que les Pays-Bas égalisent et tout ça, des performances individuelles évidemment, des gars qui sont remplaçants comme Romano Schmid que vous connaissez pas, qui sont au Werder et qui fait une performance extraordinaire, le jeune Zeewald, j'en avais parlé dans l'after, qui a une saison très compliquée à Leipzig et qui a été le métronome de l'équipe, etc. Pras, qui est pas son poste d'arrière-gauche. Non, mais c'était assez génial. J'ai regardé cette rencontre en allemand et les commentateurs allemands étaient époustouflés par ce qu'ils voyaient sur le terrain. Alors, je sais pas si c'est parce que les Néerlandais perdaient, mais en tout cas, il y avait le côté, mais c'est vraiment un vrai coup, c'est extraordinaire, c'est fou ce qui se passe. Et ils ont clôturé la fin de la rencontre comme ils ont clôturé Das Spielhaus, qui est une expression en allemand, qui est l'expression victorieuse de la Coupe du Monde 1954 à Berne. Donc le match est fini.
Oh oui, rien que ça.
Non, rien que ça, tu vois, c'était très important. Oui. Ensuite, tu écoutais les commentateurs, il y avait Balak et tout ça. Tout le monde avait la bave à la bouche pour dire c'était génial, etc. Rangnick, enfin, je pense que vous avez vu tout ça. Donc, c'est un match très, très symbolique.
Bah non, nous, on n'a pas vu. On était tellement sur le match de l'équipe de France que justement, c'est pour ça
on
que
s'est endormi. Ouais, on a fait une sieste.
C'était plaisir d'entendre que, visiblement, ça avait l'air d'être le match de la journée, quoi.
Ce qui est bien, c'est qu'il a fait 4 remplacements par rapport à la deuxième journée. Mais en plus, si on rajoute Flagger qui sont blessés notamment au Kaladjic devant, tu te dis finalement il y a un groupe qui est là et qui moi pour moi c'est vraiment un match référence. Encore une fois, ça serait une autre nation que les Pays-Bas, je dirais autre chose, mais les Pays-Bas mettaient des raclées à l'Autriche régulièrement tous les 2-3 ans lorsqu'ils se rencontraient soit en match amical soit en Ligue des Nations, etc. Et donc ce qui s'est passé ce soir, c'est quand même assez extraordinaire. Alors il y a des choses évidemment qui sont pas parfaites, le côté gauche avec Pras et Weber c'est pas terrible non plus, mais tu sens que le milieu de terrain fonctionne super bien, le pressing contre pressing, il y a eu que ça. La première mi-temps, c'est presque un modèle qu'il faudrait montrer à tout le monde, comment un peu comme la France avait fait contre l'Autriche lors de la première journée, c'est-à-dire toujours les premiers sur le ballon, etc. Ensuite voilà, bon, les Pays-Bas, moi je comprends pas ce que fait Koeman, c'est pas du tout les Pays-Bas que j'ai vu en match amical contre la National Mannschaft. Donc voilà, je laisse la parole à Johan.
Johan, vas-y.
Alors, après le match contre l'équipe de France, vous avez expliqué plusieurs propos que tenaient les consultants néerlandais, dont le fameux Van Hooydonk, qui avait parlé du jeu de l'équipe de France et de l'équipe des Pays-Bas. Je dois dire que ce soir, ils font très très fort. Je pense que j'ai jamais vu une phrase aussi forte écrite, alors là, par un journaliste néerlandais, pas par un consultant. Pour qualifier le match de sa sélection nationale. Vous l'avez peut-être pas en tête, non. Mais le 25 juin, il y a 36 ans, les Pays-Bas gagnaient l'Euro 1988 contre l'URSS, avec le fameux but de Van Basten. Mais pas que. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est la date la plus importante de l'histoire du football néerlandais. Il y a un journaliste qui écrit ce soir dans son analyse d'après-match. Le match des Néerlandais ce soir, exactement 36 ans jour pour jour après le titre européen à Munich, est une profanation du statut du 25 juin comme la date la plus importante de l'histoire du football néerlandais. Ouh. Rendez-vous compte un peu de la violence des propos qu'il y a ce soir. Ça, c'est un exemple. On peut reprendre tous les consultants qui allument à peu près tous les joueurs, le sélectionneur évidemment, la stratégie de départ, la stratégie en cours de match. Parce qu'encore
une fois...
Mais
est-ce qu'il te semble qu'il y a des joueurs qui sont un peu à côté, tirent au flanc, qui font pas les efforts qu'il faut, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, dans les capricieux, dans les mecs qui sont...
Non, il n'y a pas ça, il y a plusieurs soucis. Le premier, enfin, c'est des soucis qui rejoignent ceux qu'on a déjà observés lors des deux premières rencontres, au-delà même de la stratégie globale qui est un peu trop attentiste à mon goût et assez éloignée des standards esthétiques de cette sélection. Mais si on reprend sur le début du match, encore une fois, tu choisis un numéro 9 qui est censé t'apporter quelque chose dans le jeu. Ce soir, encore une fois, pendant, je ne me rappelle même plus à quelle minute il marque, 75 minutes ou un truc comme ça, pendant 75 minutes, il n'existe pas. Pire que ça, il te flingue tous les coups de pied arrêtés. Et là où on ne l'attend pas finalement, parce qu'on ne le prend pas simplement pour marquer des buts, on le prend pour amener du jeu, il répond par un but qui est très joli pour le coup, amené encore une fois par une déviation de la tête de Verhorst, qui quand il rentre à chaque fois est décisif au point de se demander...
C'est peut-être ça la question.
Bah, au point de se demander d'ailleurs si ce serait peut-être pas une bonne idée de le mettre titulaire.
Parce que Bopay, mais ça fait des années qu'on en discute, c'est quoi son positionnement? Moi je trouve que c'est un gâchis. Bon, Weghorst, tu le sais, je l'ai souvent vu en Bundesliga, c'était quand même un mec qui tournait à 0,5 de moyenne. Donc un but tous les deux matchs. Quand tu vois la sélection néerlandaise, encore une fois, la qualité individuelle des Néerlandais est supérieure à celle des Autrichiens, mais l'expression collective n'est pas là. Et j'ai été très surpris de ce que j'ai vu. Alors, je l'avais vu aussi un petit peu contre la France, mais le 0-0, si tu veux, c'était toujours un peu... ça arrange aussi, ça peut être dans les calculs, etc. Mais deux pailles en neuf devant, je comprends pas. C'est-à-dire c'est...
Un Depay qui est en forme et il y a 4 ans te faisait ce travail-là parce qu'il y avait aussi un Wijnaldum qui avait 4 ans de moins, qui était en pleine force de large, qui marchait sur l'eau et qui te faisait plein d'appels dans le dos de Depay. Donc le jeu était parfait pour les deux.
Et moi, je trouve qu'on est de plus en plus dans ces discussions-là face à un nombre de joueurs de plus en plus importants dont on ne sait pas quoi faire sur un terrain. Mmh. Des joueurs qui ont des qualités, des joueurs qui ont briller à un moment ou un autre. Alors on parle même plus de carrière qui dure plus de 5 ans, hein, parce qu'à chaque fois on fait des références à des moments précis, mais à des joueurs qui n'ont pas une régularité. Quand on parle de Memphis, on peut pas parler d'une énorme régularité le concernant. Mais il y en a d'autres. Ces fameux joueurs de percussion qui sont à la mode depuis des années maintenant dans le foot. Mais le nombre de joueurs dont on ne sait pas quoi faire, dont on ne connaît pas le poste réel, qui sont durs à manœuvrer dans un collectif, durs à coacher, je trouve que c'est une vraie particularité.
Bien sûr, mais tu vois.
Aujourd'hui.
Moi, j'ai même envie d'aller au-delà de ça, c'est que tout ça est évidemment est vrai. Mais tu vois, moi, le truc qui m'a choqué, là, cet après-midi, c'est les coups de pied arrêtés. T'as envie de dire, hey, Coco, enlève la plaque d'alu que t'as mis sur ta godasse de foot et lève le ballon, quoi.
Mais nous on avait ça dans le match avec Dembélé quand il tire un corner. Mais c'est pas possible.
Ça dépasse pas le premier poteau. C'est insupportable.
C'est impossible de pas travailler pour savoir tirer un corner. Et dans la série des joueurs dont on ne sait pas le poste, qui ont du mal dans un collectif, bah vous l'avez pas vu, mais l'Angleterre, mais ils en ont une liste. Foden maintenant c'est plus un joueur de côté parce que maintenant il faut qu'il joue 10. Bellingham il peut pas jouer 10 parce qu'il faut qu'il joue plus bas. Un tel quand il est dans son club il joue là, mais là il joue pas là.
Ouais, mais Daniel,
j'ai le sentiment aussi que t'as des joueurs qui ne sont même pas prêt à faire un effort, parce qu'au bout d'un moment, si t'as une forme de technique, si t'es un joueur professionnel, il y a une capacité d'adaptation. Le sport de haut niveau, surtout quand tu joues pour l'équipe nationale, tu dois être également capable de t'adapter un minimum. En Allemagne, on a Leroy Sané qui est un peu le pavillon témoin de ça aussi. Tu sais pas à quel moment il va être bon, tu sais pas quel jour il fera pas la gueule ou il ratera pas 150 occasions, quelle est sa meilleure place sur le terrain. On ne sait pas trop. Avertz, on n'en parle même pas. Lui,
c'est toujours le même. Mais Daniel, il y a un truc sur la question tactique que tu évoquais juste avant. J'ai évidemment pas la réponse, mais c'est une question que je me pose. Parce qu'on parlait aussi de Gvardiol, tu sais, qui a joué beaucoup arrière-gauche avec la Croatie. Alors que c'est juste le meilleur défenseur central de la Croatie. Mais comme à City,
il joue aux côtés.
Voilà. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que les périodes internationales sont de plus en plus réduites? Les sélectionneurs n'ont absolument pas le temps de bosser, donc ils s'appuient beaucoup sur ce que les joueurs ont comme connaissance individuelle et collective des postes à travers ce qu'ils font en club.
Ouais, mais d'accord, tu sais très bien que c'est dur à dupliquer, parce que quand tu prends un mec qui joue dans un club où c'est très typé en jeu, il pourra pas retrouver la même façon de jouer en équipe
nationale. Mais ça, c'est évident, mais en même temps, Gvardiol, ça fait un an qu'il joue à gauche. Est-ce que tu as envie forcément de le remettre central, où il ne joue plus depuis un moment? Parce que des questionnements, je me demande.
Je pense qu'il y a des effets de mode ici, des effets de mode qui sont lancés par des grands entraîneurs dans certains clubs.
D'accord, Manu,
avec ça. Et on l'a vu aussi en sélection avec nous à début avec Kevin Jacquet, avec De Sey à droite, Thuram à droite. Et d'ailleurs, la continuité avec Didier Deschamps, hein, il met des défenseurs centraux sur les côtés. Donc, t'as l'impression qu'on veut vraiment barricader la défense
plutôt que de, d'utiliser justement les couloirs avec des joueurs qui ont ce profil-là. Donc Guardiola, moi je suis complètement d'accord. Je le trouve beaucoup mieux et plus intéressant pour l'équipe dans l'axe.
Et juste un truc sur la défense pour des Pays-Bas. J'avais déjà observé sur les deux premiers matchs que sur plusieurs actions, Van Dijk défendait 3 mètres derrière la ligne défensive. Ce soir, encore une fois, 3 mètres derrière tout le monde, il couvre le joueur autrichien qui va marquer le but.
Si tu l'avais regardé à Liverpool cette année, depuis son retour de sa grave blessure, il a souvent été comme ça.
Parce qu'il veut du confort.
Oui, parce qu'il est moins à l'aise dans le 1 contre 1 et il a besoin d'avoir une sécurité.
Bien sûr, il recule, comme ça il se donne un peu plus de marge.
Et le problème, c'est que tu en as deux comme ça maintenant aux Pays-Bas. Quand il choisit De Vrij plus Van Dijk, bah, tu peux pas défendre en avançant, ce qui fait que tu as des trous béants au milieu. Et comme tu n'as pas Frenkie de Jong et comme Miners, tu as des milieux du PSV qui sont certes de bons joueurs, mais ils sont pas capables de filtrer, et ce qui fait que la défense est vachement exposée.
Merci les gars, Johan
Polo. Pour les Pays-Bas et l'Autriche, on a une idée de...
Bah si, l'Autriche, ils vont prendre le deuxième du groupe du Portugal, donc peut-être sans doute la Turquie, vraisemblablement.
Ah oui, pour les Autrichiens, moi je l'ai dit tout à l'heure, moi je les vois en quart du coup. Et les Pays-Bas, en revanche, ça peut donner quoi, Johan?
Bah, Pays-Bas, ça,
Turquie, non?
Ils vont être un des meilleurs troisièmes, donc là.
On attend pour le moment.
Ouais. Faut attendre demain.
On n'a pas un début de piste là-dessus?
Non.
Ok, très bien.
Faut attendre demain.
Et j'ai oublié Gilbert Rangnick, qui est fêté comme un héros national.
Il a transformé les jeux. Franchement.
Qui est fêté comme héros national en Autriche, faut faire attention.
Quand je vois comment ils l'ont traité à Manchester, comment le travail qu'il fait en étant sélectionneur.
L'adversaire le plus probable pour les Pays-Bas, c'est l'Angleterre.
Voilà, quand tu vois la difficulté d'entraîner une sélection, parce qu'il les a 10 fois dans l'année, un entraîneur, c'est au quotidien. Donc tu vois ce qu'il arrive à faire avec l'Autriche, c'est magnifique.
Oui, Johan, oui, l'adversaire le plus probable, c'est l'Angleterre. Parce qu'il y a un tableau en fait qui te fait des projections.
Ouais, beau 8e. Kuman, Southgate, bataille d'infirmes. C'est bien.
Voilà, bah, la porte du Sud bientôt va prendre la porte pour de bon. Hein.
Merci les gars, bonne soirée,
ciao,
bonne nuit.
Bonne
ciao.
Ciao les gars.
Alors, reste de l'actu les gars, dominé une nouvelle fois par les droits télé. Donc on est à un peu plus de 50 jours là, de la reprise de la Ligue 1, il n'y a toujours pas de droits télé. Mais on a maintenant les droits télé pour la Ligue 2. Ça c'est signé. Magnifique. Depuis aujourd'hui. Bein Sport a acheté les droits de la Ligue 2.
Combien?
39 millions.
Ah, c'est faiblard. Hein.
Voilà.
Donc 1 million quasiment par journée.
La répartition pour les clubs, c'est pas lourd. Hein. Ok.
Bah oui, après je. Bah,
ils attendent d'avoir aussi les droits justement de l'élite pour qu'ils puissent récupérer une partie.
Mais alors l'actu des droits de télé est surtout dominée par le fait que demain Vincent Labrune, président de la Ligue, sera entendu par les sénateurs dans le cadre de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le foot. Et apparemment, il tremble.
Non, sérieux?
Ouais, parce qu'il a dit à Kita, je pense que tu n'as pas bien compris ce qui m'attend. En gros, il dit on veut ma peau, quoi. Donc moi, je passe 4 à 5 heures par jour, dit-il, à préparer cette audition. Je suis la cible, dit-il. C'est importantissime. Je dois me concentrer sur les 80 questions qu'on va me poser.
Je suis la cible, c'est-à-dire que c'est un complot d'après lui?
Bah, il se prend.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il sent qu'il y a des mecs qui veulent mettre le nez là-dedans et que à partir du moment où il a fait les promesses qu'il a faites et que aujourd'hui il y a pas de
promesses ou mensonges, parce que c'est différent entre une promesse. Hein. Moi, c'est plus des mensonges que des promesses.
Un mensonge d'avoir promis 1 milliard.
C'est une mauvaise évaluation de la situation qui se transforme évidemment en quelque chose que tu peux appeler un mensonge.
Tout le monde. T'appelles ça comment, Daniel?
Oui, moi je pense que c'est plus de l'incompétence. D'avoir imaginé qu'il pourrait ramasser autant d'argent que ça en faisant venir ses VC, en leur promettant les 13%, en triplant son salaire tellement il était sûr que tout le monde se gaverait, donc il a commencé par se gaver lui-même.
Ah oui.
En prenant la prime de 3 millions et quelques, plus triplement de salaire. Donc lui, il s'est gavé alors que les clubs aujourd'hui sont à la rue. Et les présidents avec qui tu peux échanger te disent bah oui, là maintenant, évidemment, on est conscient qu'on est dans la merde. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si jamais ça se passe pas bien, là, c'est sûr, on le mettra dehors. Il sera trop tard. Ça lui fera une belle jambe de quitter la Ligue une fois que vous serez tous dans la merde. Donc qu'il fallait se réveiller.
C'est demain, alors, Gilbert?
Oui.
À quelle heure?
Demain, il fait l'audition, demain.
Je précise que c'est public, hein. Tu peux suffire sur le site du Sénat.
Ah, parce que moi, des fois, je regarde sur la 3. LCP. Des fois, sur la 3, je regarde un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Non, mais là,
pour faire la sieste, je crois que c'est le
mieux. Là, c'est une commission.
C'est une commission. Déjà, la dernière fois,
quand j'étais joueur, des fois, je le faisais. Je regardais la 3 pour faire ma sieste, en fait.
Ouais, pas mal.
Ok.
Belle image de la démocratie. Bravo, Ben.
Attends, il y en a qui jouent sur leur portable. Tu les vois en plus.
Non, mais on va peut-être avoir un moment un peu croustillant comme la dernière fois quand le mec de CVC a dit non, nous n'avons pas payé Vincent Labrune et que le sénateur a sorti le papier.
Voilà. Non, mais demain soir, on aura un compte rendu complet puisque Nicolas Pelletier.
Ah, si Nicolas Pelletier est sur place, alors on va se régaler demain.
Il suit tout ça de très près, donc on aura
un rapport. Alors,
il trouvera quelqu'un qui va bien le défendre demain sur les antennes d'RMC. Donc.
Labrune ? Non. Voilà, aujourd'hui, c'est dur à défendre. Ah bon, il y a qui le défend?
C'est Jérôme, tu sais, qui défend toujours les puissants. Donc
Jérôme, il défend Vincent Labrune?
Ah putain!
Il défend les puissants.
Tu regardes son agenda, il n'y a que des puissants.
Ah, mais je ne suis pas au courant. Je vois pas trop comment il est défendable.
Mais... Non, mais il va s'énerver. Si jamais il entend, il va s'énerver. Mais Jérôme, je te rassure, on s'expliquera à la radio, t'inquiète.
Tous les puissants, sauf Zidane.
Non, mais je ne vois pas comment ça peut être défendable, la position actuelle. À mon avis, il n'est pas au courant du dossier, surtout, Jérôme, pour dire ça.
Ouais, non, mais tu sais.
Il s'est fait refiler les informations.
On parlait de la pandémie, tu sais, au niveau financier, les droits télévisuels, machin. Ouais, enfin, depuis quelques années, c'est pour ça qu'ils ont fait un pacte avec le diable à vie.
Ouais.
Et ça n'empêche pas aussi certains clubs à continuer à faire des contrats en heure à des joueurs qui ne servent à rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, ça, bien sûr. Ça, oui.
Donc, on ne leur met pas la flingue sur la tempe non plus, hein.
Absolument.